Je suis Rodolphe Bruno Boulmier, je suis compositeur, producteur à France Musique et directeur artistique ici du festival Musée Piano au Louvre-Lens.
Vous êtes là depuis la création de ce festival il y a 10 ans?
J'ai créé ce festival effectivement il y a 10 ans. Étant compositeur, j'ai un lien direct avec les musiciens, j'écris pour eux. En tant que producteur à Radio France, je parle des musiciens, je fais leur promotion et il me manquait un troisième aspect qui était de faire monter les musiciens sur scène et de programmer les artistes que j'admirais particulièrement. Et c'est comme ça qu'est née l'envie de créer un festival. Ensuite, j'avais envie de créer un festival dans un lieu un peu différent. J'avais envie que les concerts, l'expérience du concert soit différente. Et donc, avec un ami qui a fait Sciences Po, on a cherché plusieurs lieux. Il était originaire du Nord. Il m'a dit, mais on devrait peut-être aller vers un musée. Le Nord est la région où il y a le plus de musées. Le Louvre-Lens avait 3 ans, ça semblait le bon moment, c'était un musée jeune, dynamique. On est arrivé ici, j'ai frappé à la porte du directeur qui était Xavier Decteau à l'époque, et il se trouve qu'il m'écoutait sur France Musique, donc ça a tout de suite créé un lien, une facilité, et il nous a dit « Ok, faites votre festival la première année », et donc on a commencé comme ça, et puis on l'a fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et je ne pensais pas que j'arriverais aux 10 ans, 10 ans après, il y a presque une génération d'artistes qui sont venus au festival, et voilà, on fête déjà les 10 ans de Musée Piano.
Vous avez réussi à fidéliser un public déjà.
Oui, et ça, c'est la chose dont on est le plus fier, c'est qu'on a aujourd'hui un public qui est très présent. On a plus de 2 000 festivaliers le temps du week-end. On a une formule avec des passes qui maintenant s'arrachent dès qu'on les met en vente lors de l'ouverture des concerts en septembre. Et on a surtout un public qui, pour certains, ont entendu leur premier concert de musique classique avec nous, sont venus à des concerts pour la première fois et depuis sont devenus des bénévoles du festival, veulent être acteurs de notre festival. Donc ça, effectivement, la présence du public, la chaleur du public ici à Lens est vraiment, je crois, l'une des grandes réussites du festival.
Donc à Lille, il y a Lille Piano Festival en juin, et là, on va dire que l'année artistique redémarre avec ce qui se passe ici au Louvre-Lens. C'est aussi ici facilité par un thème qui induit un petit peu votre programmation.
Alors, effectivement, on est toujours le dernier week-end de septembre. Je trouvais que c'était une bonne date parce qu'il peut faire encore beau. L'été vient juste de se terminer. Et puis, ça lance aussi une saison. Finalement, la date fonctionnait bien. On est toujours le week-end d'ouverture également de l'exposition temporaire, d'une exposition du musée. Et pour nous, c'était très important de faire un festival qui soit vraiment in situ dans le musée, mais qui pense des programmations pour le musée. Donc tous nos concerts sont en lien avec les salles du musée, que ce soit la Galerie du Temps, que ce soit les expositions temporaires. Nos artistes viennent parfois en amont visiter le musée pour penser leurs concerts. Et pour moi, l'enjeu en tant que programmateur, c'est à la fois de faire venir des artistes qui ont une carrière internationale. Ils viennent jouer ici au Louvre-Lens. C'est souvent la première fois qu'ils viennent. Ils sont curieux de rencontrer le musée, de jouer dans un autre espace. Ça change de la salle de concert traditionnelle. Et surtout, on leur demande de penser un programme sur mesure pour le musée. Donc ça aussi, pour eux, c'est assez rare de leur dire, bah voilà, ici, il va y avoir telle œuvre de Rembrandt, il va y avoir telle œuvre du Gréco. Est-ce qu'on ne penserait pas un programme par rapport à ces œuvres? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une mise en musique de la Galerie du Temps où lorsqu'on fait un pas, on change de civilisation, on change de pays, etc. Et donc on a pensé comme ça, petit à petit, des concerts toujours plus fous, toujours plus originaux, dans des espaces que le musée n'a cessé de nous ouvrir. On a été dans les réserves du musée, dans les sous-sols, dans des lieux qui n'étaient pas toujours ouverts au public. Et le festival est vraiment un festival qui ne pourrait pas se faire ailleurs. Il est vraiment pensé pour le musée du Louvre-Lens, avec le musée du Louvre-Lens. Et les programmations, les concerts qu'on fait ici sont inédit. Donc l'artiste qui va venir jouer ici à la fin du mois, le concert qu'il donnera, il pourra pas vraiment le redonner ailleurs puisqu'il est en lien avec les œuvres il l'aura pensé par rapport à l'exposition gothique, il l'aura pensé par rapport à la Galerie du Temps. Donc c'est quelque chose qu'il pourra difficilement refaire ailleurs.
Donc 26, 27 et 28 septembre, c'est un grand week-end, mais qui va être très concentré en propositions.
Oui, on n'a jamais voulu vraiment s'étendre, faire un festival sur une semaine, sur plusieurs week-ends. On veut rester très concentré, mais on veut que ce soit une expérience pour notre public pendant le temps d'un week-end, ce soit une plongée dans le musée et dans notre festival. Donc on propose énormément de concerts dans tous les espaces du musée, des concerts qui sont courts parce que ça demande de la concentration. La musique, c'est l'art le plus abstrait, c'est l'art le plus immatériel. Donc, il faut des concerts qui soient marquants, qui soient forts. Et donc, moi, je prends la parole. Je suis producteur à France Musique. J'aime parler de la musique. Donc, ce sont des concerts où il y a des prises de parole, où l'artiste aussi parle avec son public. Donc, c'est des moments courts, intenses, et ils sont nombreux. Et pour nous, ce qui était important, c'est que ce soit convivial. Donc, entre les concerts, on a inventé la bière du festival. Il y a pas mal de brasseurs dans la région. Donc, on a créé la bière Musée Piano. Donc, on peut se restaurer, on peut rencontrer les artistes. On essaye voilà, de faire en sorte que ce soit un vrai voyage avec des étapes. Les étapes importantes, ce sont les concerts. Et entre les étapes, eh bien, c'est le voyage. Donc, on discute, on se rencontre, on parle. Voilà, je suis présent du début à la fin du festival et il s'est créé vraiment des liens d'amitié avec le public. Donc, ils viennent à notre rencontre, ils nous donnent leur avis. On prend des verres, on prend un café. C'est vraiment l'esprit festival. Pour nous, c'était important que ce ne soit pas juste des concerts un peu froids, mais que ce soit une expérience totale.
Est-ce qu'il y a des créations particulièrement originales, bien sûr, autour du thème gothique ?
Oui, tous les ans, on essaye de faire des créations. Alors, il y aura des créations mondiales, des compositeurs qui vont venir et leurs œuvres seront jouées. On a une pianiste, Ninon Anker-Segal, qui a demandé à des compositeurs de créer des œuvres sur ce thème du gothique. Et puis, moi, j'ai cherché dans l'histoire de la musique quelles œuvres pourraient correspondre à ce thème. Et il y a notamment une œuvre qui me tient à cœur, qui est Les Visions de la Maine d'Olivier Messiaen, qui est une œuvre très rarement donnée pour deux pianos, qui est une œuvre gigantesque, très impressionnante, très forte. Elle sera donnée ici et ça va être une expérience parce que c'est rare de pouvoir entendre les visions de la Maine d'Olivier Messiaen. Ça dure 45 minutes. Elle sera notamment donnée cette œuvre par l'un des grands spécialistes de ce compositeur qui est Michel Béroff, qui est un pianiste qui a connu Olivier Messiaen. Olivier Messiaen, c'est un compositeur qui est mort en 1992. Et donc Michel Béroff a connu jeune, il a joué pour Olivier Messiaen. Et donc on pourra entendre cette œuvre, les visions de la Maine, qui est une sorte de grande cathédrale de son. Et ça, en ce sort, c'est gothique. On a l'impression, lorsqu'on pénètre dans ces visions de la Maine, qu'on a l'impression de rentrer finalement dans Notre-Dame ou je sais pas, et on va comme ça aller de vitraux en vitraux observer les sonorités comme on serait dans une cathédrale.
Donc 10 concerts, certains sont gratuits. Il y a un pass, mais c'est complet pour le pass. Comment on peut venir passer la journée et 3 fois le vendredi, le samedi et le dimanche et se faire un petit peu un itinéraire dans ces espaces du musée du Louvre-Lens?
Alors, il reste des places sur tous les concerts. Et c'est vrai que vous avez raison, il faut faire plusieurs concerts. Je pense que c'est l'intérêt d'un festival, c'est de voyager avec nous. Enfin, chaque concert peut évidemment se vivre en soi tout seul, mais on les pense dans une, on va dire, dans une dramaturgie. Par exemple, on a pensé une grande messe gothique. Si vous venez le samedi après-midi, vous pouvez être avec nous de 15h à 23h. À 15h, il y a un concert, à 17h, un autre concert, à 19h, un autre concert, à 21h, un autre concert. Et ces concerts vont avoir une vraie dramaturgie. On parle du clavecin, donc l'instrument le plus ancien pour les claviers, et on va aller vers un concert presque de musique moderne. Donc on accompagne comme ça notre public avec des expériences. Et puis, il ne faut pas avoir peur, il y a des concerts qui font 15 minutes, donc on peut comme ça, on a beaucoup de propositions différentes le temps d'un week-end. On va même pour la première fois avoir des concerts en gare de Lens, puisque pour la première fois, on a un partenariat avec la SNCF et on peut même maintenant accueillir notre public qui vient par les trains. On va pouvoir l'accueillir en musique dès la gare de Lens le vendredi.
Alors c'est vrai qu'à Lille ou à Paris, il y a des pianos, hein, un piano qui permet à des musiciens, ou peut-être pas forcément confirmés, mais des gens qui ont envie de jouer de la musique, de se faire entendre. Certains sont repérés.
Oui, vous savez, en fait, à chaque fois qu'il y a un piano en gare, c'est Yamaha. Les pianos Yamaha ont posé des pianos dans toutes les gares. Et si vous avez remarqué, quand vous allez en gare, il y a toujours quelqu'un qui joue sur un piano. Ces pianos ont trouvé leur raison d'être dans les gares. Ils sont en vie, ils sont vivants, ils sont de vrais instruments qui sont joués, parfois pour le meilleur, malheureusement parfois pour le pire aussi, puisqu'on entend des gens annoncer pour la xème fois la lettre à Élise ou je ne sais quoi. Mais Yamaha a créé l'année dernière un concours piano en gare. J'ai été jury des demi-finales à Lille, en gare de Lille, où j'ai entendu une vingtaine de jeunes pianistes amateurs jouer. Et il y en a eu un que j'ai trouvé très étonnant, qui est un garçon qui travaille dans le BTP, qui est carreleur. Et lorsqu'il va prendre son train le soir, il est en gare de Lille et il attend son train, il joue du piano et il est autodidacte. Et il a créé son propre univers sonore, il a improvisé, il a composé. Et pendant des années, il a travaillé son piano, il n'avait pas de piano chez lui, il a travaillé son piano dans la gare de Lille. Et je lui ai dit, bah, voilà, on t'a donné le premier prix de ce concours piano en gare, mais tu vas aussi venir jouer au concert de clôture de notre festival. Donc voilà, comme ça est née l'aventure avec la gare de Lens. Et puis la SNCF nous a appelés en disant, mais on va faire plus que le faire venir jouer ce jeune homme dans votre festival. On va mettre des pianos dans la gare de Lens, parce que Lens n'avait pas encore ses pianos. Et donc on va faire des concerts dans la gare de Lens.
Voilà, ben vous structurez d'une certaine manière le territoire aussi avec cette proposition.
Oui, et puis en fait, finalement, les gares, c'est des lieux de passage. On s'est rendu compte que nous, on avait du public qui venait d'un peu partout pour notre festival dans le musée. Donc finalement, je n'avais pas vocation à aller ailleurs, mais aller dans une gare, c'est logique, puisque finalement, c'est le point d'ancrage de notre festival.